Vous écoutez RTL.
Joyeuse Pâques, il est 9h37.
Maison, jardin, cuisine, brocante.
Avec Bernard Poirette sur RTL.
Maison, jardin, cuisine, brocante. En ce dimanche 1er avril, autour du micro, il y a Thierry, Laetitia, Églantine et Sébastien. Mes amis, bonjour.
Eh bien, bonjour.
Bonjour, bonjour Bernard.
Thierry Denis, hier, nous avons appris qu'au 14e siècle, en Amérique, les jardiniers aztèques nourrissaient leurs légumes et le potager avec de l'eau, donc qui était fertilisée par les déjections de poissons. Ça, c'était déjà extraordinaire. Et vous poursuivez dans cette veine-là.
Oui, parce que c'est une technique aussi efficace qu'écolo. Oui. Alors, ce qui me passionne, c'est qu'elle revient au goût du jour. Avec les nouveaux concepts de jardinage urbain, les poissons vont faire pousser nos salades dans nos villes.
Alors j'adore. Thierry, moi je suis l'agriculture urbaine, j'adore ça, mais alors les poissons en ville, jamais entendu parler encore.
Alors Sébastien, c'est tout simple, l'idée c'est d'avoir à la fois un aquarium avec des poissons, vous pouvez, et un bac dans lequel on va cultiver des plantes. Nettoyer sans cesse un aquarium souillé par des déjections de poissons,
oh, c'est un enfer.
C'est insupportable.
Voilà. D'accord.
Alors, on pompe l'eau de l'aquarium, on la fait couler dans le bac des plantes, elle circule dans leurs racines qui vont absorber tous les nutriments salissants contenus dans l'eau à cause des déjections des poissons.
D'accord.
C'est un excellent engrais.
Bon engrais, oui.
L'eau ne s'arrête pas, elle repart ensuite dans l'aquarium
propre
et limpide. Bien, ça.
C'est un circuit en boucle.
Et ça fonctionne vraiment bien ?
Alors, très bien si le système de circulation d'eau est top. Bon, cette start-up de ma région dont je vous ai parlé hier, Urban Leaf à Dijon, propose toute une gamme d'installations, des plus grandes aux plus petites. Bon, les grandes couvent plusieurs centaines de mètres carrés, avec des carpes dans les bassins, des salades ou des tomates dans les bacs de culture. Bon, c'est parfait pour le toit d'un immeuble moderne. Bon, c'est une vraie production nourricière, sérieuse.
Et la version un peu moins vaste d'Urban Leaf, ça donne quoi?
Alors, on pourrait installer quelques aquariums de quelques mètres que l'on mettrait à l'intérieur, dans une école, des bureaux, une maison de retraite. Là, on fait le choix de poissons aux jolies couleurs. Les plantes sont plutôt des espèces décoratives. Et l'objectif n'est pas tant de produire pour se nourrir que d'enchanter notre cadre de vie.
Ah, j'aime bien quand c'est vous parlez bien comme ça, Thierry. Bravo. Ouais. Et pour les particuliers, il y a plus petit alors?
Alors oui, déjà pour votre jardin, Laetitia, un concept déco. Deux jolis bacs en bois d'un mètre carré. Ouais. Le premier est par terre, avec des poissons sympas, dans quand même 500 litres d'eau.
Ah oui,
voilà. Le second est derrière, surélevé un petit peu comme s'il était sur une table. Alors vous y semerez tous les petits légumes et les fleurs que vous aimez. Bon, ça coûte quand même 1 259 €, mais les enfants adorent.
Et pour moi, hier, vous m'aviez promis que je pourrais faire ça dans mon appartement, sur mon balcon.
Oui, la version spéciale appart, Églantine, qui tient dans la plus petite des cuisines.
C'est mignon.
Des petits poissons dans l'eau. Et vos aromatiques au-dessus. Vous pouvez ajouter des étages supplémentaires pour avoir plus de plantes gourmandes. La petite version fait 120 €. Après, on monte à quelques centaines.
C'est tellement chic.
Et tout ça venu des Aztèques.
Bonjour les amis, à l'apéro nous avons des radis qu'on poussait grâce aux déjections des
poissons, etc. Donc du vrai jardinage urbain, sympathique et pédagogique pour les enfants. Je rappelle, la société Urban Leaf est à Dijon. Ils ont un site, bien sûr, urban-leaf.com, qui est plein d'infos. Thierry, vous mettez toutes les coordonnées sur rtl.fr. Quant à vous, Laetitia Nallet, puisque c'est déjà Pâques, vous voulez nous faire une jolie table, bien évidemment.
Comme
le problème, c'est que ça fait quelques années que vous vous y collez. Vous ne pouvez pas faire neuf, là.
Neuf,
ça va être
neuf,
bis repetita. Neuf,
mais bah, non, pas On va parler des œufs. Les œufs, base de notre déco ce matin, avec leur boîte, s'il vous plaît. Parce que les œufs vont devenir des vases.
C'est pas possible. C'est trop petit.
Mais non, on peut tout à fait. Si on met un petit brin de muguet, par exemple, ça fonctionne super bien. Dans une coquille d'œuf, c'est une déco pleine de délicatesse, ça.
Délicatesse, bon, alors, il va falloir commencer par manger des œufs la veille pour ne pas gaspiller.
Oui, ou faire un gâteau. Mais alors, dans ce cas-là, vous ouvrez les œufs comme pour des œufs coques sans abîmer la coquille. En utilisant
un coupe-œuf.
Voilà, on en parlait avec Thierry tout à l'heure. Dans vos 6 œufs, pour notre déco de table, vous allez mettre un tout petit peu de terre au fond et de l'herbe à chat.
C'est super l'herbe à chat.
Ah, j'adore.
C'est le machin tout droit, tout vert.
C'est
la déco, ça.
2 € le grand pot maximum. Ah, oui. Et puis pour la couleur, moi j'adore, c'est très très vert. On dirait un gazon anglais dans les brins. Aurait poussé bien dru. La terre, c'est juste pour faire tenir les brins dans la coquille d'œuf. Donc vous allez poser comme ça 12 œufs dans leur boîte en carton, en centre de table. Vous mettez un peu de terre au fond, quelques petits brins d'herbe à chat. Vous les coupez pour pas que ça soit trop haut non plus.
D'accord.
Puis au milieu, vous mettez une minuscule jonquille par-ci, par-là, la plus petite que vous trouverez. Et voilà, une table pleine de fraîcheur. Il faudra recouper l'herbe à chat, c'est important parce qu'il ne faut pas qu'elle soit trop haute non plus.
Je vous avais déjà recommandé l'herbe à chat Zoulou.
Ah oui, c'est
vrai. Parce que c'est la plus naine. Bon, d'autres idées pour
votre
déco ?
On peut aussi perfectionner sa déco en repeignant les œufs avec de la peinture en aérosol. Et voilà, on les bombe, ça c'est vite fait, regardez.
C'est joli.
Ou d'œufs roses ou dorés selon votre nappe, ça peut devenir très raffiné. Mais bon, on peut faire sans les œufs aussi.
Alors comment ça, le mystère.
Juste avec la boîte en carton et à la place des œufs, vous déposerez au fond de la mousse et quelques petites fleurs dessus. Alors je ne sais pas, est-ce qu'on peut mettre des mini-fleurs, des primes verts par exemple ?
C'est super joli parce qu'on ne voit quasiment plus la boîte.
Et voilà.
Sauf les milieux.
Ouais. Et il est important que les fleurs ne soient pas trop grosses et que vous respectiez un équilibre entre le vert et la couleur.
Je trouve qu'il faut qu'on la voit un petit peu la boîte.
Un petit peu, mais pas trop. Je vais vous mettre des photos évidemment.
Vous nous mettez des photos ?
Oui, sur mon site Facebook par exemple. Signaler aussi de très jolies tablettes de chocolat parce que, je vous en parle, parce que les emballages sont des papiers peints dominotés. Alors, c'est français, c'est italien, il y a aussi des papiers peints traditionnels japonais, c'est juste magnifique et super bon.
C'est un chocolatier qui s'appelle le Petit Duc.
Exactement, c'est une fabrication artisanale à Saint-Rémy-de-Provence. Je vais être obligée de manger 698 tablettes
pour
pouvoir retapisser un mur avec les emballages qui sont bien trop beaux pour aller dans une poubelle. Ça coûte 6 euros la tablette, mais franchement, les emballages sont magnifiques.
C'est et puis voilà,
il y a une histoire, c'est vraiment le motif de l'ancien papier peint d'aminoté, donc qui se vendait en carré comme ça, au Moyen-Âge notamment, pour recouvrir les fonds des coffres.
On a le droit de manger le chocolat qui est dedans.
On peut goûter
Évidemment, on va goûter.
Bon, super. La suite, en tout cas, de Maison Jardin Cuisine Brocante, on aura attaqué le chocolat pendant la pub.
Oui.
Et derrière, que se passera-t-il ? Eh bien, Églantine va nous chiner des patins à roulettes, ça c'est une bonne idée. Quant à Sébastien, il va nous faire une épaule d'agneau, j'imagine.
C'est une vengeance.
Parce que
je vais vous expliquer.
Le 1er avril et que c'est Pâques. C'est ainsi. A tout de suite.
Il est 9h45. Maison, jardin, cuisine, brocante.
Avec Bernard Poirette sur RTL.
Suite et fin de Maison Jardin Cuisine Brocante avec vous, Églantine Émeillé. Pardonnez-moi, j'ai du mal à parler parce que on a goûté le chocolat du Petit
aussi.
Duc là pendant la pause.
Il faut dire
qu'il est particulièrement bon. Églantine, ça glisse dans les brocantes avec les patins à roulettes, donc nous retournons direct dans les années 80.
Désolé Bernard, mais quand on est l'âge d'or des rollers aux années 70 et 80, c'est se mettre les roulettes dans l'œil.
Ah bon ?
Il y a des sports qui ne cessent de se réinventer et qui tiennent régulièrement le haut du pavé. C'est le cas des patins à roulettes puisqu'ils engendrent de véritables phénomènes de mode depuis plus de 250 ans.
Alors, mea culpa, mais je l'ignorais totalement.
Vous êtes pardonné.
Oui, c'est vrai qu'avec
l'arrivée du printemps, on a furieusement envie de sortir de notre torpeur hivernale et de se remettre en mouvement.
Demandez
à vos filles.
D'accord, ok.
Sébastien, je suis sûre qu'elles ne vont pas tarder, si ce n'est pas déjà fait, à vous demander une paire de rollers quad, ces patins avec deux roues devant, deux roues derrière.
Pourquoi les filles
La faute à la série pour ados Soy Luna, qui suit une ado de 16 ans passionnée de patins à roulettes à Cancun, au Mexique. Cette série a déclenché une attirance incontrôlable des jeunes filles pour les patins. Les citadins branchés, les hipsters ne sont pas en reste. Ils sont hypnotisés par les défilés de mode et les publicités de grandes marques. Est-ce que vous avez remarqué qui remettent cet objet à l'honneur ? Vous n'avez pas vu ?
Non.
Alors où est-ce que vous étiez ces dernières années ?
Dans le Morvan.
J'ai vu dans le supermarché. Il y a une époque, ils étaient en patins à roulettes.
Il y a un gros retour en force des patins à roulettes, toutes générations confondues.
Ça tombe bien, parce que dans les brocantes, on en croit souvent quand même.
On attribue l'invention des patins au Belge John Joseph Merlin en 1760. Durant 100 ans, les patins auront des roues alignées, comme les patins à glace. Ça a commencé comme ça. Et ce n'est qu'en 1863 que l'Américain James Leonard Plimpton invente les patins à essieux mobiles, que l'on appelle aujourd'hui quad ou patins classiques, bien plus stables à l'époque. Et là, des patinoires se sont ouvertes très rapidement à New York, à Londres, et la jeunesse s'y rue, pas seulement pour faire de l'exercice.
J'imagine le pire.
C'est un des rares lieux où les jeunes filles de bonne famille peuvent être courtisées en échappant au sens propre à leur mère, inquisiteur du chaperon. La mode, elle aussi, va suivre le mouvement avec l'apparition de vêtements plus cintrés et plus courts pour faciliter les déplacements et séduire davantage.
Les patins pour les gamins, là, les vintage, conseils, je vous écoute.
Mais alors, c'est vraiment les patins vintage qui ont la cote en ce moment. La plupart des patins qui ont été régulièrement utilisés sont en général vendus 40 à 50% de leur prix initial. S'ils ont vraiment peu servi ou qu'ils sont quasi neufs, ce sera un petit peu plus cher. Le hic, c'est qu'une paire de patins peut coûter d'une cinquantaine d'euros à plusieurs centaines. en fonction du modèle. Vous patinez pas, Sébastien,
j'ai
compris.
Non, faut pas déconner.
Non, parce que si quelqu'un patine, je lui conseille de tester le produit pendant une dizaine de minutes avant de vous décider.
Ça
dépend des chaussures, non. Alors, les patins en ligne, par exemple, vous savez, ils ont une coque assez épaisse. Si elle est endommagée, laissez tomber parce qu'on peut la remplacer, mais ça va coûter le prix d'une paire neuve.
Okay.
Il va falloir être très attentif aussi aux lacets et aux boucles, aux châssis qui ne doit pas être fissuré ni voilé aux roues, parce que les roues quand elles sont trop usées, usées, il faut que ce soit silencieux, sinon ça marche plus.
D'accord.
C'est, donc il y a beaucoup de choses à vérifier.
Et vous, Églantine, vous en avez toujours des patins ?
Alors moi, figurez-vous que j'ai gardé ceux de mes 15 ans, qu'il va falloir que je ressorte dans la cave, mais qui sont particulièrement moches. Je vais donc peut-être en chiner d'autres. La semaine dernière, j'ai fait l'acquisition pour ma nièce d'un modèle quad, cuir blanc quasi neuf.
C'était classique, hein, cuir blanc.
Et franchement, ils sont top. Avec les protections des mains, avec les protections des coudes et des genoux, l'ensemble, 50 euros.
Mais on dirait vraiment des patins à glace avec les lacets.
Et c'est vrai, ils sont très jolis. C'est parfait pour débuter. Tout neuf, ça vaut 150 euros. Hein. Vous connaissez la course des voitures mythiques, les 24 heures du Mans ?
Oui.
Eh bien, figurez-vous que cette même piste accueille chaque année, fin juin, les 24 heures du Mans Roller.
Non !
L'objectif, c'est de parcourir la plus grande distance possible en patin en 24 heures en se relayant, rassurez-vous. Il ne vous reste que quelques semaines pour être fin prêt. Je vous disais, ça revient à la mode.
C'est
vous voyez, il y a même
débiles, ça j'adore, ce genre de truc. Bon, la plus grande distance en 24 heures, c'est pas vous qui allez participer demain. Okay, hein, parce que vous, vous êtes au fourneau ce dimanche. Ouais. À nous cuire une épaule. D'ailleurs, voilà, une épaule parce que c'est l'époque.
Une épaule, vous savez pourquoi ? Parce que, je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, moi j'ai pas oublié en tout cas, Laetitia m'a littéralement coupé l'herbe sous le pied, je voulais faire une épaule, elle m'a dit « Oh non, on fait du gigot ». Voilà, donc voilà, c'est séance de rattrapage aujourd'hui.
On n'est pas censé manger du poisson le 1er avril.
Non, pas
Cadio. Gigot de Pâques, gigot de Pâques.
Ouais, moi je fais épaule de Pâques. Allez, on est dimanche les amis, c'est le moment où jamais on est... Quoi, 4, 5, 6 personnes à table ce midi ?
Ok, ça vous convient ? C'est parti. Moi, je commence à noter.
Allez, très simple, Églantine. L'épaule, vous le savez, c'est facile comme tout à cuisiner, vraiment. Non désossé, ça fait dans les 1,2 kg, 1,3 kg.
Et puis vous allez la faire dans un four, non ?
Oui, bah évidemment, au four. Four avec 2-3 bricoles en une heure et quart, c'est terminé, c'est fastoche. Faites gaffe quand même, évidemment, tous les labels, les histoires de traçabilité, vous voyez, évidemment, avec le boucher. Généralement, moi, chez les miens, j'ai du baronnet du Limousin, c'est très très bon, de la chouria basque, délicieux également. Mmh. Et là, si vous trouvez ça, bing, les yeux fermés, vous pouvez y aller.
Allez, voilà. On vous attend pour la liste des courses.
Hyper semaine. Simple.
C'est vrai.
Alors, la saison, elle est en train de démarrer tout juste, Laetitia, mais j'en ai déjà trouvé sur les étals une tête d'ail nouveau. Ok, ouais. Très okay, simple. Oui. Vous allez la couper en deux dans sa hauteur et elle va bêtement confire pendant la cuisson. Ok, c'est bon. Quelques brins de thym frais, du sel, du poivre, de l'huile d'olive, quelques giclettes de vin blanc, pas grand-chose. Et tout ça réparti dans un grand plat en inox et vous allez masser votre viande avec cette espèce de marinade, d'accord ?
Le four, est-ce que je dois le préchauffer ou pas ?
Évidemment, hyper important, très important, parce qu'on va faire une cuisson très rapide, Thierry, puis laisser longuement reposer l'épaule.
D'accord.
Donc l'idée, c'est que le four, il démarre thermostat 7, on est à 210, 220 degrés, facile. L'épaule va cuire pendant 45 minutes à bloc.
Ah, quand même.
Ah oui, vous la retournez juste à mi-cuisson et vous la laissez reposer ensuite dans le four entre-ouvert pendant une quinzaine, vingtaine de minutes. Voilà.
D'accord.
Là, on est prêt à y aller.
Et donc c'est prêt.
Oui, c'est prêt. La viande est prête, mais en parallèle, quand même. On bosse.
Ah,
un
ça
peu.
Y est, allez. Les flageolets.
Non, une espèce de petite garniture très sympa. Vous prenez une belle tête de brocoli, d'accord ?
Oui, ça c'est bon.
On est au sortir de l'hiver, hein. Il y en a encore, il n'y a pas de problème. Vous allez la râper à cru. Vous faites une espèce de semoule de brocoli. Faites ça au robot. Alors, c'est hyper fastoche.
Ah ouais. Okay, j'imagine qu'il y aura en plus des petits trucs sympas pour booster
il faut,
le brocoli.
Évidemment, plein de petits trucs. Des petits oignons frais, Thierry, au marché.
C'est délicieux.
Vous allez tailler les bulbes en rondelles et les mettre à mariner quelques instants dans un petit mélange vinaigre de vin vieux, sel et sucre. C'est ce que je vous ai raconté mille
les
fois.
Les fameux pickles.
Les petits pickles. Voilà, un peu légumes en aigre doux. Un citron confit. Ok, on taille l'écorce en fine brunoise. Hyper simple jusque-là. Et cette semoule de brocoli, tout simplement, vous la mélangez avec une vraie semoule.
Ah
une
oui.
vraie semoule à couscous. Ou alors du blé concassé, du boulgour, ce que vous voulez, ce que vous avez. Et vous assaisonnez l'ensemble voilà, avec une belle huile d'olive, fleur de sel, poivre blanc du moulin.
Et on sert ça à chaud ?
Ouais,
température le plus chaud
ambiante.
Possible.
Température ambiante. Si votre semoule est bien chaude, le temps que vous mélangez,
oui, voilà,
vous passez tout de suite à table.
C'est
voilà, c'est léger. Moi, je trouve ça quasiment printanier.
C'est bien. C'est original.
On va se régaler avec tout ça.
Bah ouais, j'espère.
Je vous souhaite une excellente semaine.
Merci
amis.
Bernard.
À samedi prochain.
Bon dimanche.
Allez, salut. Bye bye.